à vous qui êtes ici dans cette salle et à vous qui êtes derrière votre écran aussi. Nous sommes heureux de vous accueillir, de vous retrouver. Il y a de nouveaux visages ce soir, en tout cas que chacun se sente le bienvenu. Notre réflexion continue autour de ce grand thème, ce que Jésus aimerait dire à un certain nombre de personnes. Et ce soir, on se demande ce que Jésus pourrait dire aux banquiers et aux financiers de la planète. Dans ce contexte, on peut se demander pourquoi parler des banquiers ? Mais Jésus lui-même a parlé des banquiers. Alors pour ceux qui auraient leur Bible avec eux, je vous invite à l'ouvrir dans Matthieu chapitre 25, au verset 27, où Jésus reconnaît en tout cas cette profession, ce métier, ce segment d'activité. Tout n'est pas mauvais. L'idée de banque est déjà présente. Et Jésus, c'est comme les médecins, quand Jésus reconnaît l'existence des médecins, leur pratique. Et dans une parabole qu'il situait dans la perspective du royaume, Jésus a reproché indirectement, parce qu'il prend aussi la figure de ce maître, de ce grand propriétaire dans la parabole. Et Jésus va dire au verset 27 à celui qui n'avait rien fait, en tout cas de son capital, « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier ?» Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Donc cette idée de placer son argent, d'utiliser l'argent, est prise ou reprise aussi par Jésus. Ce que la Bible fait comprendre, c'est que Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Dieu, c'est vrai, n'a pas de dette. Dieu n'est pas découvert en fin de mois. Dieu n'a pas demandé une augmentation à son patron. Dieu ne cherche pas à investir en termes monétaires, Dieu ne joue pas ou ne spécule pas à la bourse de New York ou de Paris, Dieu ne fait pas partie des grandes entreprises du CAC 40, mais les grands hommes de la Bible étaient riches aussi. Abraham, par exemple. Jacob, c'est quelqu'un qui savait investir. Bon, il avait un petit côté, je ne dirais pas roublard, mais il savait anticiper. Et il savait en tout cas comment ne pas perdre. Et ce qui est intéressant, c'est que ces hommes-là, dans leur engagement social, matériel, ils n'oubliaient jamais leur relation avec Dieu. Et pourquoi encore parler des banquiers, des financiers, de ceux qui gèrent des millions, des milliards ? C'est parce que quand nous sommes interpellés par la foi que Dieu a mise en nous, nous sommes aussi interpellés par la nécessité ou au moins la recherche d'un comportement moral, éthique. Quand nous parlons d'éthique, nous parlons aussi de cette capacité à développer un savoir-vivre ensemble. Comment agencer nos valeurs, pas monétaires, mais des valeurs morales, dans un monde qui peut-être donne l'impression que le plus important, c'est le profit, la possession. Il y a même des endroits où on donne des noms, de tels noms aux communes, parce qu'on a l'impression qu'il faut posséder quelque chose. Et si vous regardez notre société, on a l'impression qu'elle se construit autour du verbe « avoir ». Du verbe « avoir », beaucoup plus qu'autour du verbe « être ». Et tout le monde l'a compris. Les publicitaires l'ont compris, les banquiers l'ont compris, dans beaucoup d'entreprises aussi, on essaie de vous faire posséder des choses dont vous n'avez probablement pas vraiment besoin. Regardez la force de la publicité qui arrive à vous convaincre que ce que vous voyez sur un écran, sur un support papier, un dépliant, les catalogues qu'on dépose gratuitement dans votre boîte aux lettres parce qu'on pense beaucoup à vous. Il y a beaucoup de gens qui pensent beaucoup, mais vraiment beaucoup à vous, qui pensent à votre peau, à la crème dont vous avez besoin. Et ces gens-là ne vous connaissent pas. Bon, c'est vrai que dans la publicité, on a l'impression qu'ils pensent vraiment à votre peau, mais derrière votre peau, ils ont déjà vu votre porte-monnaie. Ils ont vu votre carnet de chèques. Ils ont vu votre carte bleue. Et on dit, ça va chauffer, parce qu'il faut, aller chercher l'argent là où il est. Alors, pour enlever une petite tache qui vous agace, peut-être très peu, Mais la publicité peut vous faire croire que cette tâche vous agace vraiment. Et autour, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour acheter, vendre, en tout cas pour que l'argent se retrouve au centre de beaucoup de nos réflexions, de notre comportement. Nous avons vu avec notre conférencier David Blanco cette semaine aussi que les trois dieux qui gouvernent le monde, l'argent, le sexe, le pouvoir, sont. Il avait utilisé une phrase pour dire, on se demande si ce n'est pas la même chose. Les trois sont tellement liés entre eux qu'ils finissent par aller ensemble partout. Et on a l'impression que toute la terre tourne autour de cela. Les banquiers, les financiers, la loi du dollar. Et d'ailleurs, regardez, malgré toutes les tensions qu'il y a entre toutes les nations, c'est toujours autour du dollar que tous les prix sont indexés. Le marché mondial tourne autour du dollar. Et pourtant, l'Amérique fait partie des 20 pays les plus endettés. Mais le commerce s'est développé de cette manière-là. Alors, la Chine travaille pour que d'ici 10 ans, les choses soient indexées plutôt sur le yuan, parce que la Chine s'est développée et a beaucoup plus de devises, en tout cas de réserves en devises étrangères que n'importe quel pays. La France peut racheter les dettes de plusieurs pays européens aujourd'hui, avant même minuit ce soir, par rapport aux capitaux que ce pays possède à force d'avoir bien vendu sur la planète. Quelques citations célèbres sur l'argent. Catherine de Médicis, vous l'avez rencontrée quand vous avez étudié l'histoire de France, quand les Italiens ont commencé à venir en France parce qu'il y avait des alliances, il y avait aussi de la main-d'œuvre, du savoir-faire qui venait après la Renaissance. Et Catherine de Médicis disait que l'argent est le nerf de la guerre. Vous avez déjà entendu cela. Mais à bien regarder, on peut inverser cette expression. L'argent, c'est parfois la guerre des nerfs. Parfois, à cause d'une facture, on peut avoir des disputes sérieuses. Pas ici, bien sûr, mais très loin d'ici. Le nerf de la guerre des nerfs. L'argent, les affaires. Alexandre Dumas, fils, a dit, les affaires, c'est bien simple, c'est l'argent des autres. Quand vous allez dans certains endroits, on vous accueille d'une certaine manière, tellement agréable que vous vous laissez entraîner jusqu'à vous asseoir et jusqu'à signer, sans même vous en rendre compte, parce que cela marche très bien. Sophocle avait déjà dit, très loin, très longtemps de cela, l'argent a le fléau des humains. Pour un industriel, l'argent, c'est de l'argent. Pour un banquier, l'argent, c'est de l'argent plus une date, une échéance. Prêter, rendre, rembourser, etc. Le temps, c'est de l'argent, disait Benjamin Franklin, scientifique américain. C'est lui qui a développé pas mal de théories sur l'électricité aussi. Vous le saviez, hein? L'argent, le temps, c'est de l'argent. Alors, parfois, on aime bien dire, même dans notre contexte francophone, « time is money », parce qu'on dit « on ne veut pas perdre trop de temps, parce que là, je suis en train de perdre du temps, et si je perds du temps, je perds de l'argent. » Le nerf de la guerre des nerfs. Dieu n'est pas contre l'argent. Mais on se rend compte que l'argent change les gens aussi souvent qu'ils changent de main. Philippe Bouvard, ce n'est pas un grand philosophe, mais c'est un journaliste qui anime pas mal, en tout cas qui a animé pas mal, qui a dit « l'argent qui corrompt tout ne laisse intact que la misère ». Albert Camus, le philosophe, certains peut-être sont en train de lire ses livres pour le bac de français. « On veut gagner de l'argent pour vivre heureux et tout l'effort et le meilleur d'une vie se concentrent pour le gain de cet argent. Le bonheur est oublié, le moyen pris pour la fin. » Ce n'est plus l'objectif qui compte, c'est le moyen, ce qui est au milieu. Allez, pour vous faire plaisir, une dernière citation. Andrew Carnegie qui disait « Toute vie qui n'a pour but que de ramasser de l'argent est une piètre vie. » Si vous êtes d'accord avec cette dernière citation, mettez les mains dans les poches, donnez-moi tout votre argent ce soir. Votre sourire me dit que vous tenez à votre bien, donc je ne veux pas me fâcher avec vous ce soir. Pour ceux qui sont en ligne, ils peuvent aussi faire des virements. Je laisserai les 16 chiffres de mon compte tout à l'heure. Nous sourions beaucoup avec l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe ? Regardez ce que les gens aiment dire. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais il vaut mieux pleurer dans une Jaguar que pleurer dans le métro, n'est-ce pas? Enfin, on dit une Jaguar, on peut changer de marque. Même une marque avec 3 lettres seulement. Les gens étaient tellement pressés pour fabriquer cette voiture de 3 lettres qu'ils n'avaient pas le temps de faire un nom complet. Il vaut mieux pleurer dans une Jaguar que dans le métro. Quelqu'un a dit, enfin, pas quelqu'un, Eleanor Roosevelt, épouse première dame des États-Unis, qui perd de l'argent a perdu beaucoup, qui perd un ami a perdu plus encore, qui perd la foi a tout perdu. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons dans un monde où au moins on ne veut pas perdre. Au moins on ne veut pas perdre. Surtout si on construit ou si on se construit autour de ce verbe « avoir ». Alors vous avez vu comment ma gestuelle, mon langage corporel va avec ce que mon discours. Quand je dis « avoir », je fais ça, ce geste-là. Je le montre aussi pour ceux qui sont à l'écran, parce qu'on veut posséder. Pour les scolaires, vous vous souvenez de l'avare, la pièce de Molière? Son nom, c'est Harpagon. Et il y a cette idée dans ce personnage que lorsqu'il vous dit bonjour, il n'ouvre pas totalement la main pour vous donner une poignée de main. Il serre la main en fermant un peu la main, parce qu'il a peur de lâcher quelque chose. On n'aime pas perdre. On n'aime rien risquer. John Kenneth Galbraith, un économiste qui a dit de tous les secteurs américano-canadiens, ceux qui ont voyagé un peu sur le territoire canadien doivent le connaître, de tous les secteurs de l'économie, l'étude de l'argent est celui où la complexité du système sert le plus à déguiser la vérité, à la dissimuler au lieu de l'exposer. Il y a comme un flou ou un jeu de miroir déformant parfois autour de cette notion d'argent. Allez, pour ceux qui aiment bien les dreadlocks, même Bob Marley a émis une idée, mais je pense qu'il a été inspiré par la Bible. Quand il disait « à vouloir gagner le monde, tu perdras ton âme. La sagesse vaut mieux que l'or et l'argent. » Intéressant. Pour ceux qui ont fait un retrait ce matin, ou ceux qui ont déposé de l'argent, vous êtes content d'avoir des banques. Moi, je ne vais pas souvent à la banque, parce que c'est ma femme qui y va. C'est bien d'avoir une ministre de l'économie à la maison. Mais nous sommes entourés de banques parce que les banques font partie de notre quotidien. Réellement, nous n'avons rien contre les banques. Il n'y a pas de méfiance. Parce que c'est un système qui est presque d'utilité publique, mais pas à but non lucratif. Quel est le principe d'une banque? C'est de vous vendre un argent qu'elle ne possède pas. C'est-à-dire, M. X place son argent et qu'on va prêter à M. Y avec un intérêt pour que s'il y ait une rentabilité. Et à la fin, on est obligé de partager aussi un peu cet intérêt pour les plans épargne, pour que M. X voit quand même l'utilité de poser ou de déposer son argent à la banque. Mais quand vous multipliez cela par des centaines et des millions, vous devinez que cela peut rapporter gros à quelqu'un ou à quelques-uns. Et dans le monde, partout, on a développé cet instrument, cet outil, cet organisme pour faciliter les choses. Et comme je le disais, il y a 2000 ans de cela, Jésus lui-même évoquait les banques. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, nous avons des banques en ligne, comme nous avons des assureurs en ligne, etc. Et quand nous allons, parce que tout pratiquement part de New York, de la bourse de New York, vous savez, dans la rue qu'on appelle Wall Street, il y a ce fameux taureau qui est presque le veau d'or, les Américains ont beaucoup d'humour et ils n'ont pas de tabou avec l'argent. C'est ça qui est intéressant. Ils parlent facilement de leur argent. Votre voisin peut vous dire, ben, j'ai acheté ce 4x4 à 43 000 $. Et ta voiture, tu l'as payé combien? Mais dans d'autres contextes, surtout latin, on n'ose pas demander cela. C'est tabou, c'est presque un sacrilège de demander à son voisin combien il a payé sa maison ou combien il a payé sa voiture. Et cela a commencé très longtemps. Quand dans la Bible, on parle du veau d'or, c'est vrai que ce n'était pas une banque. Mais quand nous regardons Wall Street avec tout ces, toute cette institution bancaire, tout le marché, la bourse, on se rend compte que l'argent, ça circule. Ça circule partout, sur tous ces écrans d'ordinateur. Et que l'argent est vraiment un dieu pour le monde. Et beaucoup de banques d'affaires ont vu le jour, et cela influence aussi l'économie. Et je crois que nous n'avons pas, il n'y a plus de secret dans ce contexte-là. Quand nous regardons un petit peu l'impact des crises monétaires, avant la crise de 2008, cette histoire, quand la bulle immobilière a connu une sorte de crevaison aux États-Unis, les fameux subprimes, comme on a dit, parce qu'on a vendu beaucoup plus qu'il ne fallait, et on a été trop généreux par rapport au taux d'intérêt. Et quand la Banque fédérale a remonté son taux d'intérêt, ça a amené beaucoup de gens qui étaient en faillite automatiquement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus les moyens de payer parce que les taux d'intérêt avaient monté. C'est un peu complexe, mais j'arrête là parce que je ne suis pas économiste. Avant la crise, on parlait sur la chute d'une entreprise. Et depuis la crise, on parle sur la chute d'un État. Aujourd'hui, ce ne sont pas des entreprises qui sont menacées de faillite, ce sont les États. Les États. Vous imaginez un État qui deviendrait insolvable ? Ça vous fait peur par rapport à votre retraite, ou par rapport aux allocations, ou par rapport au budget pour le ministère de la Défense, parce que si on n'est plus protégé, au budget du ministère de l'Intérieur. Un État... Quand François Fillon avait... C'était un petit peu lâché en disant, lorsqu'il avait visité la Corse, qu'il était à la tête d'un État en faillite, il s'était fait gronder par le président de la République de l'époque, son grand collaborateur, M. Nicolas Sarkozy. Parce qu'on ne dit pas aux journalistes qu'on est dans un État en faillite. Parce que c'est tabou que de laisser croire, que de laisser dire ou de dire que les caisses sont vides. Mais c'est une réalité. Parce qu'il n'y a plus de budget en équilibre et il n'y a plus d'excédent budgétaire. Alors les banques privées prêtent à l'État. Parce que la Banque de France ne peut pas assumer son rôle. Et c'est comme cela qu'il y a une sorte de bulle qu'on appelle la spéculation. Mais c'est toujours avec l'argent des contribuables, des petits porteurs, des petits épargnants, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que tout le monde. C'est vrai, on exploite l'argent, on va le chercher là où il est, dans votre poche ou partout. Mais c'est la réalité de tous les jours. Quand on a changé les devises, on est passé du franc à l'euro. Par exemple, avant une heure de parking, c'était 5 francs. Et quand on est passé à l'euro, une heure de parking passe à 1 euro. Si vous regardez juste le chiffre 1 et compte le chiffre 5, vous dites « Ah, 1, 5, 5, c'est plus fort. » Mais 1 euro, c'est réellement plus que 5 francs. C'est 6 francs 55 et des poussières. Vous imaginez 1,50 francs multiplié par des millions d'heures de stationnement dans les villes, dans toutes les villes de France, pour la même durée. Et c'est cela qui a alerté les journalistes économiques en disant, est-ce que dans les banques, dans ce système financier, dans cette bulle financière, est-ce qu'il y a des pratiques qui sont gagnantes pour les propriétaires de ces conglomérats bancaires et pas vraiment pour monsieur tout le monde. Oui, on a mis à jour comme cela, quelques pratiques un peu qu'on appelle douteuses. En tout cas, ça, c'est le langage des journalistes. Par exemple, on a montré qu'il y avait de la corruption de certains conseillers financiers pour faciliter des prêts. Des prêts, soit pour des projets qui étaient... à la limite même de ce qui était légal. Parfois, on a facturé des frais à des personnes décédées depuis plusieurs années. Il y a des gens qui ont payé plus qu'il le fallait, et puis parfois, c'est des oublis. Parfois, c'est des petites sommes minuscules, mais multipliées par des millions, vous devinez bien. Un euro perdu, oublié, ça peut rapporter gros. Parfois, on a facturé des services inexistants, comme cette fameuse expression que vous avez rencontrée tous, frais de dossier. Et parfois, il y a des frais de dossier qui sont très élevés. S'il y a des banquiers parmi nous, je ne suis pas contre vous, je vais vous saluer à la sortie sans problème. Mais quand nous regardons le témoignage de ceux qui sont à l'intérieur, regardez une employée de la Banque Royale en Ontario, au Canada, pour aller un peu loin. Ce n'est plus ce qui est important pour nos clients. La banque veut de plus en plus d'argent et ça amène tout le monde à avoir des dettes. Le crédit facile, l'argent facile. Vous partez avec la voiture la plus récente que vous aimez et regardez les publicités avec zéro apport. C'est tentant. C'est tentant. Votre voiture commence à tout sauter depuis quelques mois, vous dites zéro apport. Mais c'est bon. Je n'ai pas à chercher un crédit avant, mais je paye mensuellement. Les banques sont là pour vous aider. Les taux d'intérêt peuvent baisser. Un employé d'une autre banque dit « On attend de moi que je vende de façon persuasive des produits, spécialement Visa, que j'atteigne des cibles. » Peu importe si ça nuit au client. Imaginez que c'est de la fiction. Imaginez que c'est de la fiction. Mais quand on regarde certains films sur l'intérieur des banques, en tout cas du monde de la finance, comme le film Wall Street, par exemple, pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder au moins une partie de ce film, ben, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est une vraie jungle avec un seul objectif, aller chercher l'argent des autres, parce que c'est le monde des affaires. Des choses qui, parfois, sont un peu forcées parce que l'argent, ça attire. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin d'argent. Je ne pourrais pas prétendre ça. J'ai besoin d'argent, moi aussi. Tout le monde a besoin d'argent parce que le monde fonctionne comme cela. On a besoin d'argent pour aller acheter une baguette, pour payer un ticket de bus, pour payer, je sais pas, la révision de sa voiture. Ce n'est pas avec votre beau sourire que vous allez payer cela. Ce n'est pas avec un sac de fruits ou un beau gâteau que vous paierez votre garagiste en disant, ben, écoutez, pour régler ma facture, est-ce que je peux vous apporter deux gâteaux? Il peut vous dire oui, sans problème, apportez les deux gâteaux, mais réglez la facture aussi. Parce que tout tourne autour de l'argent. C'est-à-dire c'est le moyen le plus simple, le plus accepté, le plus universellement existant pour faciliter les choses, en tout cas à ce jour. On attend à ce que les banques soient honnêtes avec leurs clients, disent certains. Et maintenant, on apprend que ces employés vivent des pressions considérables pour vendre, pour gonfler les profits des banques. C'est ce qu'on appelle la cupidité. C'est inacceptable. On vend l'argent. L'argent coûte cher aujourd'hui. Et vous avez remarqué que l'argent, ça va, ça vient. Mais ça va plus que ça vient. Et ça va loin de vous, parfois. Vous avez envie de le rattraper, mais comme les billets sont parfois légers, ils volent. Et vous essayez d'en sauver quelques-uns. Les espèces sonnantes et trébuchantes, parfois, elles ne sont pas sonnantes, mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire trébucher aussi? Parce que pour l'argent, les gens sont prêts à faire des choses inimaginables. On dit que l'amour de l'argent, c'est la mère de tous les vices. La personne qui vend de la drogue aux jeunes dans les lycées ou près des lycées, ce n'est pas parce que cette personne n'aime pas les enfants. Peut-être que cette personne a aussi des enfants. Ce qui intéresse cette personne, c'est seulement l'argent. N'allez pas parler de la santé, de la sécurité des enfants, de leur bien-être. Ce sont des mots qui peut-être rappellent des souvenirs, mais ce n'est pas une priorité. La personne qui va vous vendre quelque chose après avoir maquillé des malfaçons ou autre chose, pourquoi ce maquillage? Parce qu'il y a comme un élan de créativité? Mais parce qu'on veut cacher certaines choses pour gagner. Gagner plus. Le plus. On va dire, mais il n'y a pas de mesquinerie. On va vous dire, mais c'est le monde des affaires. Est-ce que c'est ça que Jésus avait voulu dire dans cette parabole? C'est-à-dire, t'aurais pu déposer mon argent chez un banquier. Ça m'aurait rapporté quelque chose. Jésus a situé cette parabole dans le monde commercial ou commerçant, c'est-à-dire où il y a comme un investissement. C'est normal, quand vous plantez, vous mettez en terre un plant de tomate, vous vous attendez à récolter des tomates. Vous ne plantez jamais un plant de tomate pour la décoration. Si vous voulez de la décoration, vous plantez des buissons, des arbustes décoratifs. Mais quand vous plantez, vous mettez en terre des plantes potagères ou des fruitiers, il est logique, naturel, même sensé, de récolter ou d'attendre à ce qu'on récolte des choses. Mais quand on investit, c'est normal aussi d'avoir un minimum de profit. Et l'intérêt que Jésus évoque est tout à fait normal. Dans la Bible, on voit des hommes qui ont du bétail, certainement pour commercer aussi, vendre du bétail pour avoir quelque chose. C'est tout à fait normal. Mais quand les choses prennent des allures ou des tournures douteuses, là, peut-être que la Bible nous invite à réfléchir. À réfléchir. Parce que, et d'ailleurs, le monde aussi commence à rouvrir les yeux. Dans la postmodernité, depuis qu'on a de plus en plus le réflexe citoyen, on exige de la transparence. Vous avez vu comment même l'Union européenne a amélioré ou a durci ses lois pour qu'il y ait plus de communication sur le contenu de tout ce que vous mangez et buvez. Sur vos cartons d'emballage, avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup plus d'informations que par le passé ? Même si vous ne comprenez pas tout ce que vous lisez. Parfois, il y a des additifs ou des produits, des conservateurs avec des codes, telle chose. Vous dites, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Allez savoir. Vous pouvez chercher sur Internet. Mais il y a une exigence de transparence. Et aujourd'hui, il y a aussi une exigence de transparence au niveau de toutes les entreprises. Il y a des questions que la société contemporaine pose et se pose et qui ne se posaient pas il y a 30 ans de cela. Parce qu'on veut savoir ce qu'il y a derrière les écrans, ce que cachent toutes ces pratiques. Et c'est ainsi que beaucoup d'entreprises, même les plus célèbres, sont taxées ou doivent payer des pénalités parce qu'elles n'ont pas respecté certaines règles. Quand vous voyez comment Google a dû payer des millions de frais, même des banques comme la Deutsche Bank, le Crédit Suisse, même BNP Paribas a dû payer, la Société Générale, beaucoup de banques en Europe ou aux États-Unis, parce qu'on n'a pas respecté des règles. Alors, quand on regarde, il y a une montée de ces condamnations depuis 2010 et en 2015, on a encore vu comment les frais ont beaucoup augmenté. Ce n'est pas mon propos ce soir, mais c'est juste pour dire que c'est par milliards que certaines banques sont menacées de pénalités, en tout cas d'amendes. Alors, seulement, certains disent oui, mais c'est des gouttes d'eau qu'on sort de l'océan, ou comme un petit saut, parce que, oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Le fisc américain demande à des entreprises, même à BNP Paribas, Société Générale, de payer parce que ces banques-là ont participé à cette crise de subprimes, de la bulle immobilière. Parce que, comme si ces banques françaises ou européennes ont aussi vendu des titres qu'il ne fallait pas. Payer des amendes maintenant. On s'est dit, oui, mais ce n'est pas l'Amérique. Vous étiez quand même pris là-dedans. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que le monde cherche une sorte de moralisation des pratiques financières. Parce que l'argent était devenu vraiment ce veau d'or, ce Dieu, pas seulement de Wall Street, mais ce Dieu de toute la planète. J'avance parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Mais c'est toutes ces révélations, alertes, attirent l'attention pour dire, non pas pour dire, ne mettez plus votre argent à la banque, ce n'est pas ça mon propos, mais comprenez que la course au profit amène parfois des pratiques qui sont nuisibles pour la plus grande population du monde. Quand nous regardons les pays les plus endettés, quand on parle de l'endettement d'un pays, c'est par rapport au ratio qu'il y a entre sa dette et son PIB, son produit intérieur brut par habitant. C'est-à-dire, si vous dépensez plus que ce que vous produisez, vous devinez, si vous produisez 100 euros, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, et que vous dépensez 150 euros, vous voyez que vous avez 50 euros de trop. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Le premier pays qui est le plus endetté au monde, c'est le Japon. Et pourtant, quand vous regardez toutes les marques de voitures japonaises dans le monde, mais ce n'est pas ça qui fait la richesse, parce que parfois on vit au-dessus de ses moyens. La France est en 15e position. 15e position. Vous vous rendez compte? Comme si 96% de plus que son PIB. Alors parfois, les gens crient dans les rues. Donnez-nous encore plus d'argent. L'État dit, d'accord, je peux vous donner, mais où est-ce que je vais sortir cet argent? On peut baisser, mais combien on va réduire, ou jusqu'où on va réduire le budget de tous les départements, de tous les ministères? Peut-être qu'on est allé trop loin dans certaines pratiques et on ne peut pas augmenter l'impression de billets. On va créer des inflations parce qu'on aurait plus d'argent que nécessaire par rapport aux valeurs sur le marché ou des produits. Pour ceux qui ont fait de l'économie, ils expliqueraient ça mieux que moi. Regardez le Canada. Pour ceux qui aiment le Grand Nord, Céline Dion et autres, le Canada aussi vit au-dessus de ses moyens. 19e position. Mais on pourrait continuer comme cela. Bon, on met la Réunion dans la France aussi. Et tout cela se vit à cause de la spéculation. De la spéculation. Nous sommes contents quand nous savons que s'il y a un avion non identifié qui entre dans le ciel français et que dans 3 minutes, il y a un rafale qui va décoller, qui va aller voir qui est cet avion, nous sommes contents de savoir que ça existe, cette possibilité. Et nous dormons tranquilles. Mais qui paye? Ne dites pas nous. Parfois, même ceux qui ne payent pas d'impôts disent nous. Mais bon, c'est là le peuple, c'est vrai. Mais parfois, on veut investir davantage. Mais est-ce qu'on vit selon nos moyens? Est-ce que tous les pays évoqués vivent selon leurs moyens? Si on compare l'Allemagne, parce qu'on parle de l'Allemagne, l'Allemagne a un excédent budgétaire, un excédent commercial, son commerce extérieur est vraiment excédentaire parce que l'Allemagne exporte beaucoup d'outils ou en tout cas en termes d'industrie, l'Allemagne exporte encore plus que la France. La France est un des grands exportateurs au monde, mais pas suffisant pour retrouver l'équilibre budgétaire. Qu'est-ce que cela amène finalement dans tous les pays du monde? La spéculation. La spéculation. Qu'est-ce que c'est que la spéculation? Pour ceux qui font de la philosophie, quand vous parlez d'argumentaire ou d'argumentation, on dit que d'abord la spéculation, c'est une considération théorique. C'est-à-dire je réfléchis. Quand vous allez émettre une hypothèse, vous êtes en train de spéculer. Comme si vous, virtuellement, vous essayez de construire un raisonnement pour arriver à une conclusion. Mais dans le monde de la finance, il y a aussi de la spéculation. N'importe quel dictionnaire, vous définirez le mot spéculation, technique d'achat ou de revente de biens, de titres ou d'actions en vue de tirer profit des fluctuations de leur prix, de leur cours. Si le matin, une action de, je prends un groupe Orange ou un autre groupe jaune qui coûte 50 euros et qu'en fin de journée, la même action coûte 26 euros, vous vous dites pourquoi cette action a chuté? Mais la bourse, c'est pas comme ça. Si personne n'achète, ils vont baisser les prix pour chercher d'autres clients ou des actionnaires. Quand les prix baissent, certains sont là à l'affût. Et en quelques secondes, on peut acheter par millions ou par milliards et revendre dans la minute qui suit. C'est comme un jeu. Un jeu. Et dans une journée, il y a des entreprises qui deviennent subitement florissantes et leur capital a augmenté. Il y a d'autres qui peuvent disparaître parce que plus personne n'achète. Et parfois, on baisse volontairement le prix des actions ou des titres pour faire croire que bon, cette entreprise ne vaut pas grand-chose. Et les mêmes qui font cela rachètent par derrière parce que c'est un jeu, c'est une jungle, c'est un sport cérébral. Vous avez vu parfois dans ces images, ces documentaires, les agents qui sont là avec leur téléphone, heureusement qu'ils n'ont que 2 oreilles. Mais parfois, ils ont 2 oreilles, mais avec 4 téléphones. Mais ils essaient de satisfaire tous les clients qui disent « Achetez, vendez, achetez, vendez, n'achetez pas, retenez, attendez, on laisse encore passer quelques secondes, peut-être ça va monter. » Et puis, c'est comme au marché, quand vous allez au marché, vous entendez crier à gauche, à droite. Mais à la bourse, c'est exactement la même chose. Prenons par exemple la spéculation agroalimentaire. Jean Ziegler, un homme politique suisse, qui est sociologue aussi, a fait un constat, parce que les Nations Unies lui avaient confié un rapport sur l'agroalimentaire. Et il a dit « La spéculation agroalimentaire figure parmi les principales causes de la pénurie des aliments dans de nombreuses régions de la planète, ce qui lui a fait dire « Un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné ». Dans le rapport, par exemple, sur l'insécurité alimentaire dans le monde de la FAO, l'année dernière, toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans est mort de faim. 37 000 personnes par jour. Et près d'un milliard sur les 7 milliards que nous sommes sont en permanence gravement sous-alimentés. Si on regarde toujours ce rapport, que personne n'a contesté, ce rapport dit que l'agriculture mondiale, en l'état actuel de ses forces de production, pourrait nourrir, à raison de 2 200 calories par jour, selon le critère de l'OMS, 12 milliards d'êtres humains, alors que nous sommes que 7, et quelque chose de milliards, pourrait nourrir 12 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire presque le double de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a assez de nourriture sur la planète pour nourrir plus que la population mondiale. Mais pourtant, nous voyons de la pénurie dans beaucoup d'endroits. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité pratique, technique, industrielle? L'Union européenne déverse des centaines de milliers de tonnes de surplus agricoles, fruits, légumes, poulets, sur les marchés africains pour la moitié ou le tiers du prix du produit africain équivalent. Ça casse les prix, ça casse les marchés. Parfois, on se dit, mais s'il y a des populations qui meurent de faim, au lieu d'envoyer une fois des centaines de sacs de riz pour ces populations, on passe cela à la télévision, c'est joli. Et même des célébrités portent des sacs sur leurs épaules. Mais pourquoi ne pas envoyer ce surplus ? Mais les économistes vont vous dire, si vous faites cela, vous allez déséquilibrer le marché mondial. Parce que les prix sont fixés dans les pays riches, et ces prix fixés dans les pays riches ne peuvent pas s'appliquer aux pays pauvres. Quand vous prenez une marchandise à 10 euros en Europe, vous ne pouvez pas le vendre à 10 euros dans un pays en voie de développement ou dans un pays sous-développé. Donc, n'allez pas mettre cela sur le marché et ne nous demandez pas de donner cela à un prix raisonnable parce que cela ne peut pas se vendre dans les équations qu'on a posées. Déséquilibre, juste par rapport à l'alimentation. Quand nous voyons comment certaines entreprises occidentales ont acheté, et même la Chine aussi fait ça aujourd'hui, des forêts, des milliers d'hectares pour cultiver dans d'autres pays, par exemple le soja dont ils ont besoin dans leur pays. La déforestation de l'Amazonie est aussi un exemple, parce que c'est le profit qu'il y a derrière, le profit. Le profit, parce que le bon sens nous a fait comprendre que l'amour de l'argent, c'est la mère de tous les vices. Est-ce que l'argent, s'il ne fait pas le bonheur, est-ce qu'il peut y contribuer? 2 personnes sur 3 vont dire oui. Oui, si j'ai les moyens d'acheter une voiture qui roule bien, ben ça contribue à mon confort. Mais parfois, on a confondu le mot confort avec le mot bonheur. On pense que ce qui est confortable, c'est ça qui fait le bonheur. Si vous avez une grande télé incurvée, ben ça, c'est le bonheur. Alors, on peut reformuler en disant, non, ça, c'est le confort. Voyez bien le match, voyez bien les corners à venir ou les centres, les grandes passes, les jolies passes en profondeur, vous les voyez mieux. Ou quand vous assistez, vous regardez des documentaires, quand même, l'image est beaucoup plus belle. Ça, c'est le confort technique. Quand vous avez un canapé qui est en bon cuir, en vrai cuir, et que vous écrasez dedans et que vous prélassez, vous dites, ah, ça, c'est le bonheur. Mais réellement, ça, c'est le confort. Si vous roulez dans votre voiture, celle récuite avec la clim qui fonctionne bien, les jours où ça fonctionne bien, vous vous dites, ben, c'est agréable de rouler. Bonheur total. On peut dire, non, confort total. Mais à force de confondre bonheur et confort, on pense qu'on est en train de courir après le bonheur. Alors, ces jolies phrases presque philosophiques, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, ben, ça rassure. Ça rassure. Et comme l'autre phrase, il vaut mieux pleurer dans une Jaguar, même si elle est en panne, que dans un métro qui roule, mais au moins on est content, il y a la marque. Et ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Alors comment on construit le bonheur? Les notions de bonheur sont relatives, parce que quelqu'un qui est heureux dans l'hémisphère sud, par exemple, vous déplacez cette personne, vous la télétransportez, peut-être qu'elle ne sera pas heureuse. si vous la placez dans l'hémisphère nord, surtout s'il neige. Mais on a fait des tests et il y a des sondages, on va dire presque des études approfondies pour savoir quels sont les pays les plus où les gens sont le plus heureux dans le monde. Quand on regarde les gens les plus heureux, pour beaucoup de personnes, c'est selon vos revenus. Il y a des gens qui sont heureux, c'est-à-dire le bonheur passe par les diplômes. Deux critères assez importants. La tranche de la population qui reconnaît ou qui éprouve un certain bonheur, c'est les 66 ans et plus. Les plus jeunes ne parlent pas encore de bonheur. Ils disent on survit. Et si on prend la France, parce que cette étude a été faite en France, ben c'est dans le sud-ouest de la France que les gens paraissent le plus heureux, le plus étendu. C'est pour ça que beaucoup de gens, en quittant les départements d'outre-mer, vont du côté de Bordeaux, de Montpellier ou de Toulouse, parce que ça, c'est le sud-ouest. Qu'est-ce qui peut contribuer au bonheur des gens ? Le logement, le cadre de vie, la nature, l'environnement, le lien social, c'est important, la connaissance de soi, l'ouverture, c'est-à-dire un esprit d'ouverture aussi, et parfois la gestion du temps, l'engagement dans la ville, dans la société, dans la cité, comme on dit, par exemple dans une association, ça aussi apporte un certain niveau ou un ressenti positif pour certaines personnes. Il y a des gens, quand ils se sentent en sécurité relationnelle, quand ils ont confiance dans leurs proches, leurs voisins, leurs collègues, mais ça contribue aussi à leur bonheur. Quand il y a une capacité d'adaptation et de résilience, la résilience, c'est la capacité à rebondir après un échec, une rupture, après une déconvenue, après quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Cette capacité de dire, allez, je me reprends en main, je me relève et j'avance, ça c'est la résilience. Ben, il y a des gens qui trouvent là aussi le sens du bonheur. Et puis il y a des gens qui sont optimistes par rapport à l'avenir. Ils ne se plaignent pas en disant, ah là là, qu'est-ce qui nous attend ? Et ils passent leur temps à pleurer. Non, ils disent, peut-être que le meilleur est à venir. Et ça, c'est une manière pour ces personnes-là de se créer un sentiment de bonheur. Quand on regarde un peu la population française dans les récents sondages, 82% de la population dit « ben oui, nous sommes heureux, mais il y a toujours un petit quelque chose », mais quand même 82%. 56% de personnes vont dire « oui, on est heureux, mais un peu moins qu'avant », parce qu'il y a eu des attentats, parce qu'il y a eu des risques de crise mondiale, etc. On dit que les vieux vivent plus heureux que les jeunes. On l'a donné tout à l'heure, 76% entre 18 et 25 ans et 94% des plus 65 ans. Quand on pose la question aux gens, quelles sont les émotions que vous ressentez le plus ? La joie. Malgré la morosité ambiante, les gens disent quand même la joie. Autre sentiment, l'inquiétude. On a observé que 63% répondent l'optimisme, la sérénité, on reste calme. Mais il y a quand même 45% de personnes qui avouent un niveau de découragement ou d'indifférence et 41% de la tristesse. Mais quel est le remède à la morosité ? Question qui a été posée aux gens sondés. Mais 41% des gens ont dit ben, le temps que je passe en famille ou le temps que je passe avec mes proches ou avec les amis. Équivalent, 41%. On n'atteint pas les 50%. Mais comme remède à la morosité, ben, 11% de gens ont dit ben, il faut éviter les gens moroses. Parce que les gens qui sont pessimistes, ils vont déteindre sur moi, donc je les évite. Parce que je veux construire un bonheur. Pour certains, pour faire face à la morosité, ben, des antidépresseurs ou une thérapie, consulter un spécialiste, etc. L'argent, la spéculation. Alors certains ont trouvé des phrases pour dire ben, vous n'êtes riche que lorsque vous avez ce que l'argent ne peut pas acheter. Et ça s'appelle le bonheur. Tolstoï disait « L'argent ne représente qu'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel à la place de l'ancien esclavage personnel. » Vous connaissez Feydeau, le dramaturge, qui a dit « L'argent ne fait pas le bonheur. » C'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. Alors, avec beaucoup d'humour. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent envient les riches et ils en veulent aux riches d'être riches. Ils auraient aimé être à la place des riches. Mais je ne vous embête pas avec cela, cela ne vous concerne pas. Donc je continue. Si on change de système de valeurs en remplaçant la valeur de l'argent par les vraies valeurs humaines, alors seulement l'humanité cessera de s'autodétruire. Parce qu'on a l'impression que beaucoup de malheurs, de maux, M-A-U-X, viennent ou surviennent, surgissent dans notre société à cause de cette course au profit. Ou ce qui a amené cette guerre des nerfs. Peut-être le surendettement, la pression fiscale, travailler beaucoup pour avoir la même chose. Les slogans « travailler plus pour gagner plus », ça fait gagner des élections. Mais ça ne fait pas augmenter le capital des gens. Parce qu'on n'a pas fini de résoudre cette question de la défiscalisation des heures supplémentaires. Les slogans, ça sert juste à faire avancer une campagne électorale. Mais quand on n'y prête pas attention, on se dit « voilà le sauveur ». Mais ça, personne n'a parlé comme cela. Travailler plus pour gagner plus, extraordinaire. Mais vous savez combien de lois il faut changer, combien de réglementations il faut aménager avant d'arriver à ce bout de phrase applicable. C'était joliment dit sur l'estrade, sur la plateforme politique ou électorale. Mais avant une application réelle, parfois on a le temps d'un autre quinquennat et on n'a rien changé. Les choses que l'argent ne peut pas acheter. Alors j'ai trouvé ça sur Internet. Les manières. La bonne conduite, j'ai envie de dire le savoir-vivre, la politesse, la morale. L'argent ne peut pas acheter la morale. Et parfois, on a l'impression qu'il faut moraliser encore ce monde financier. Le respect, le caractère. Peut-être c'est ça que Jésus aimerait dire aussi à ceux qui, avec la bulle spéculative, sont en train de vendre, pour que les gens achètent jusqu'à surendettement. Et il y a des gens qui ont fini par se suicider parce qu'ils se sont vus dans des situations insolvables. Combien de foyers ont explosé à cause de l'argent ? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ou pourrait nous dire ? Le bon sens ne s'achète pas. On ne peut pas dire pour avoir du bon sens, où est-ce que je signe ? Combien ça va me coûter le bon sens ? Le bon sens ne s'achète pas, ne se vend pas non plus. On ne peut même pas parler de rupture de stock. La vérité ne s'achète pas. La patience, la classe, je ne parle pas du style, l'intégrité, l'amour, toutes ces choses-là. Alors Jésus veut parler, Jésus dit au monde entier, aux croyants comme aux non-croyants, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon est assimilable ou assimilé au Dieu de l'argent, au Dieu du profit, au Dieu matérialiste. Allez, je pousse le bouchon un peu loin, au Dieu capitaliste. Cela se trouve dans Matthieu 6, verset 24. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Alors certains peuvent dire, oui, mais dans les églises, on parle aussi d'argent. Dans les églises, on dit même qu'il faut rapporter un dixième, c'est-à-dire la dîme. Et la Bible elle-même dit « la dîme appartient à l'Éternel ». Oui, la dîme appartient à l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui l'a dit. Mais ce que Jésus veut mettre en évidence, vous ne pouvez adorer Dieu et adorer aussi ce veau d'or. Vous ne pouvez pas dire « je vais suivre le Seigneur » et courir en même temps après l'argent, au sens du profit, de la voix, de la possession. Nous répétons ce que nous avons dit un moment. La Bible n'est pas contre l'argent. La Bible n'est pas contre les gens riches. La Bible est contre l'amour de l'argent, la passion aveugle, la course au profit, même aux dépens des autres. Parce que même pour tuer des vies, quand nous avons parlé de ces marchands de la mort avec David Blanco pendant la semaine, il a mis en évidence tous ces trafics d'organes. trafic humain, la prostitution, même enfantine, ces exploitations, trafic de drogue. Vous croyez que c'est de la philanthropie ? Vous croyez que c'est simplement du profit basique ? Mais c'est l'argent à tout prix. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour gagner un contrat, à blesser, à créer des accidents, à maquiller des comptes pour acheter, pour vendre, pour nuire aux autres concurrents. Parce que l'argent n'a pas d'odeur, on dit, mais l'argent n'a pas de cœur aussi. La Bible avait déjà prévu cela. Attention, quand tu prêtes de l'argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu n'en exigeras pas d'intérêt. C'est-à-dire quand tu le dépannes, quand tu l'aides, n'essaye pas de faire du profit sur quelqu'un qui est déjà dans une situation défavorable par rapport à la tienne. La Bible parle de sagesse aussi par rapport à l'argent. La Bible dit également, n'étale pas tes richesses. La Bible n'encourage pas le style bling-bling. Tu montes toujours ta main gauche avec ta Rolex qui pend parce que tu as 50 ans et tu veux montrer que tu as réussi à 50 ans. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache point ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. N'étale pas ta charité. Quand tu fais du bien, n'envoie pas un snap. Ne fais pas de selfie avec le SDF à qui tu donnes un sandwich. C'est ça que Jésus est en train de dire. Ne montre pas sur tous les réseaux sociaux que tu as une âme charitable. Ne te vante pas. J'ai fait. Regardez ce que j'ai fait de bien pour ceux qui sont dans le besoin. Quand tu fais l'aumône, ne cherche pas à ton profit. Parce que si tu fais du bien pour que les gens te flattent, tu n'as pas fait de bien. Tu as montré ta capacité à entretenir ton égoïsme ou ta fierté d'être toi-même. La Bible dit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves gorgeront de moût. » Jésus dit, veut dire à tous ceux qui vendent de l'argent, de l'or par milliers, par millions, pour gagner encore, pour s'enrichir sur le dos des autres, Jésus leur dit, arrêtez avec vos pratiques douteuses. Et Jésus veut dire aux chrétiens aussi, si vous voulez faire partie de mon peuple, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Jésus n'a pas dit que votre amour ne soit pas guidé par l'argent. L'apôtre dit, sous la direction de l'Esprit, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, l'a dit. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je termine bientôt en rappelant ce que Jésus a dit dans son discours de politique générale. Quand Jésus, en tant que chef du gouvernement de Dieu, a fait son discours en vue du royaume, il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. S'il y a un endroit où les voleurs, les spéculateurs, les banquiers ne pourront pas faire du profit, c'est bien le royaume des cieux. Je ne sais pas s'ils n'ont pas le code d'entrée. Mais en tout cas, s'il y a un endroit où ils ne pourront pas atteindre et blesser, exploiter, c'est bien le royaume des cieux. Mais Jésus ajoute, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu te lèves la nuit pour aller compter ton argent, parce que tu te dis, est-ce que j'ai vraiment autant ou je n'ai pas assez? Si tu te lèves la nuit pour refaire tes calculs de la journée, ben là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu vas tous les jours passer 2 heures devant ta banque pour être sûr qu'il n'y ait pas de braquage, en disant si jamais des malfaiteurs venaient là, moi je participerai aussi à l'opposition, à la résistance, parce que je veux préserver mon argent, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Plus loin, Jésus va dire, ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire être, soyez négligent, mais ne faites pas une fixation, ne vous focalisez pas sur le matériel. La foi que j'ai mise en vous vous demande de considérer premièrement le royaume des cieux. Parce que tout ce que vous avez là, les vêtements, la nourriture, tout ça c'est normal d'y penser. Mais n'en faites pas une préoccupation, n'en faites pas une obsession. Alors Jésus, et ça c'est une phrase que la plupart des chrétiens connaissent ou ont apprise par cœur, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? Vous êtes dans le monde, il y a une réalité pratique, il faut remplir les casseroles, il faut trouver du travail, il faut aller à l'école. Faites cela, normalement. Mais ne vous engagez pas de manière obsessionnelle dans cette course effrénée à l'argent, dans cette course folle. Posséder, posséder, peut-être c'est flatteur, mais le royaume des cieux, ce n'est pas ça. Moi, je vous invite à vous préparer pour le royaume des cieux. Parce qu'il y a des gens, à force de vouloir accumuler des richesses, ont perdu leur âme et ne savent plus discerner le bien du mal ou leur main droite de leur main gauche parce qu'ils se sont égarés. Mesdames et messieurs, ce que Jésus aimerait dire, c'est de vivre sobrement. Même les riches peuvent vivre sobrement. Parce qu'Abraham, c'était un homme riche, il est devenu le père de la foi. Il n'avait pas de problème avec cela. Job était un homme riche, il était qualifié comme un homme intègre et droit, et il n'y avait pas deux comme lui sur terre. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide, afin que tout en ayant un engagement ici, tout en ayant l'obligation, le devoir de chercher un travail, de nourrir sa famille, même s'il y a la joie de posséder une maison, Dieu nous invite à sortir de tout ce qui est obsessionnel, de cette passion délirante qui consiste à faire du profit, le Dieu du siècle. Nous avons un seul Dieu et c'est lui qui mérite l'adoration. En dehors de lui, personne ni rien ne mérite une seule adoration. Le monde, nous l'avons vu pendant la semaine, a une mentalité qui n'a rien à voir avec la mentalité du royaume. Alors que le Seigneur nous conduise, nous instruise et nous aide à progresser. Je vous remercie pour votre attention.